France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je reçois Jean-Guy Donny, l'une des plus belles voix de la chanson française qui, depuis près de 40 ans, navigue entre chansons populaires et chansons à texte, musical et poésie. Le voici de retour pour plusieurs concerts et pour un nouveau disque 10 ans après le précédent. Jean-Guy Donny à ce micro dans quelques minutes. En fin d'émission, un choix d'archives avec notamment la voix de Germaine Taillefer. Mais avant toute chose, puisqu'on parle beaucoup de la circulation à Paris, des voitures et des piétons, figurez-vous que Monsieur Georgius, en 1929, se posait déjà la question.
La statistique est formelle, tous les jours il sort 1800 autos, 1800 autos nouvelles, et les constructeurs disent ce n'est pas trop, multipliez ça par 30, c'est 54 000 en un mois, messieurs, et par an, ça représente 650 000, et l'on peut faire mieux. Or, il n'y a pas d'usine de piétons, faut y réfléchir, nous disparaîtrons. Piétons, mes frères, il faut mourir, sachons le faire dans un sourire. Est-ce la carotte chevaux qui aura notre peau? Est-ce la Benjamin qui nous tuera demain? C'est un mystère, pourquoi gémir? Piétons, mes frères, il faut mourir. Survivants de cette race, nous traverserons les grands boulevards devant une telle audace. De nous, nos enfants seront fiers plus tard. Quelle force de caractère! Quitter le trottoir, c'est mourir un peu. Vite devons en arrière. Un autobus passe et il nous en veut. Deux pas sur le côté, comme dans le Charleston. Il faut éviter un camion 5 tonnes. Piétons et frères, il faut mourir, sachons le faire dans un sourire. Est-ce le petit cycle-car qui nous coupera le cigare? Est-ce l'autobus à cul qui coupera nos accus? C'est un mystère, pourquoi gémir? Piétons et frères, il faut mourir. À ce danger, une issue, je vous recommande un truc épatant pour bien traverser nos rues. Poussez devant vous une voiture d'enfant, dedans mettez une poupée. L'agent de son poste vous repérera et arrêtera la ruée. Des monstres d'acier, le temps qu'il faudra. Il y a aussi le truc des béquilles, mais ça la fout mal auprès des belles filles. Allons, piétons, mes frères, il faut mourir. Sachons le faire dans un sourire. La place de l'opéra sera pavée de nos tibias, et la ruée au mur sera plantée de nos fémurs. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est l'avenir. Piétons, mes frères, il faut mourir.
L'excellent Georgius en 1929 dans Le Piéton, donc illustration de la confrontation entre les automobiles et les piétons. Il manque juste les cyclistes qui aujourd'hui sont à la fois sur les chaussées et sur les trottoirs, comme vous le savez. Mais ça, c'est encore une toute autre affaire dont on parlera avec d'autres chansons.
Thank you.
Un air de ballet extrait des scènes pittoresques de Jules Massenet, une très belle suite d'orchestre. C'était l'occasion de rendre encore un petit hommage au chef d'orchestre Louis Frémaux qui vient de nous quitter et qui dirigeait ici le City of Birmingham Symphony Orchestra.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais sans plus attendre, nous allons retrouver mon invité, que je m'étonne de ne pas avoir déjà invité parce que c'était tellement une évidence. Je l'admire depuis longtemps, tant pour sa belle voix que pour ses textes, que pour son amour du musical. Il est de retour actuellement avec un nouveau disque et aussi avec de nouveaux spectacles. J'ai la joie donc d'accueillir aujourd'hui Jean Guidoni.
Il vaut mieux quelquefois ne pas avoir le choix, ne plus croire au destin ou s'en laver les mains. Et vos visages passent comme des photographies quand je ferme les yeux encore sous de moi-même. Vos regards sous la pluie me chantent des poèmes que je ne comprends pas et que je n'entends pas ou que je ne veux pas. Parce que tous vos visages, des autres différents, ne sont pas plus que ça. Ne pas savoir pourquoi, ne pas aller plus loin, rester là comme ça, rester sur sa faim. Je fume une cigarette, je bois un verre de trop, je trempe mes doigts dans l'eau, et dans l'eau je me jette. Car il est loin le temps où je croyais encore qu'avec un peu de sang on soignait ses remords. De ma maison morte, j'ai peint les murs en rouge, puis j'ai fermé les portes et les fenêtres aussi, pour que jamais ne bouge, pour que jamais ne sorte ces pensées qui me tuent, marcher des invendus. Et parmi vos visages, je cherche encore le sien. Ma vie est un naufrage, mais je n'y peux plus rien. J'aime mieux mes ennemis que j'aime mes amis. Ils ont raison de moi, mais après tout tant pis. Où est-il maintenant, à l'heure où je m'endors? Et son visage passe comme une photographie. Son regard sous la pluie me chante des poèmes que je ne comprends plus et que je n'entends plus. De ma chambre morte, j'ai peint les murs en noir, j'ai cloué sur la porte les ailes du désespoir. Vos visages inconnus, mais Dieu que je les aime, je n'en choisis aucun, puis j'éteins la lumière.
Bonjour Jean Guidoni.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous
ce matin.
C'est
moi qui vous remercie de m'accueillir.
Avec cette chanson pour commencer, assez sombre, autobiographique.
Un petit peu, je crois qu'il y a...
Ma vie est un naufrage, c'est quand même pas ça.
Oh, de temps en temps, on a l'impression qu'on est un peu le Titanic.
C'est vrai.
De temps en temps. Pas trop souvent, espérons.
Mais une belle chanson comme Merci. Toutes celles que vous écrivez et toutes celles que vous avez signées dans ce disque.
Il faut dire
qu'au fil de votre vie, de votre carrière, vous avez fait appel à des paroliers, à des écrivains, etc. Là, c'est du pur Guidoni.
Oui. Alors, j'en ai croisé tellement que ça m'a donné le goût et l'envie de faire un album complet.
Complet. Alors donc, avec vous pour les paroles et avec Didier Pascalis, qui a écrit les musiques.
Qui a écrit toutes les musiques. Toutes les musiques et la... Et la réalisation de l'album, bien sûr, et les arrangements avec un garçon, un guitariste qui s'appelle Thierry Garcia.
Voilà. Vous avez donc travaillé en studio. Je me suis posé la question parce qu'au fond, on vous associe beaucoup à la scène. Jean Guidoni, vous êtes plutôt, un homme de scène. Est-ce que vous aimez, au fond, le travail du studio, des arrangements, de la fabrication d'une chanson?
Oui, la fabrication de la chanson, c'est très intéressant. Après, le studio... C'est un travail quand même assez technique, là je peux rien amener, donc j'aime bien les laisser travailler, et après découvrir ce qui a été fait, et puis après les chanter, mais bon, on les chante avant, il y a les maquettes qui sont faites, mais c'est vrai que le travail de la collaboration, alors c'est vrai qu'en principe j'ai souvent travaillé avec des auteurs, donc la plupart du temps on travaillait à trois, quoi, voilà.
Ouais.
Là c'était bien d'avoir un duo avec Didier, qui avait très envie de faire cet album.
Voilà, il y a un petit groupe de musiciens formidables, avec quand même, ça devient rare de nos jours, un saxophone, violoncelle, violon, percussion, des vraies couleurs musicales. C'est votre retour, on peut dire, Jean-Guy Denis.
Mais vous savez, là, je pense, mais je me suis dit, c'est vraiment le retour de l'éternel retour.
Non, mais ça fait 10 ans, pour les albums.
Pour les albums, non, j'ai fait un album il y a 2 ans, 2-3 ans, avec des chansons d'Alain Lepresse, des inédits d'Alain Lepresse.
Voilà, mais c'était un hommage.
Et puis avant, j'avais fait un album avec Jacques Prévert, donc c'était aussi un hommage. Je me suis dit, il est temps.
Du pur Guy Denis, oui.
Pour que le retour. Ce soit vraiment...
Pourquoi 10 ans, pratiquement, sans un 10 vraiment totalement personnel? Et pourquoi maintenant vous avez envie de faire...
C'est ce qui m'a donné l'envie d'écrire, là. C'est le travail qui a été fait avec Didier sur l'album d'Alain Lepresse, où là, parce que d'un coup, j'étais seul avec les textes, en fait, parce que comme Alain était décédé...
Ouais.
Ce qui a été intéressant pour moi, c'était de me dire... S'il avait écrit vraiment pour moi, voilà ce qu'il aurait écrit. Donc j'ai pu choisir parmi les thèmes ce qui me concernait vraiment. Donc ça m'a approché un peu de l'écriture et à mon tour de le faire à ma façon, bien évidemment, d'écrire, voilà, et de me livrer. Bon, quand même un peu avec pudeur parce que je fais très attention, mais de dire ce que j'avais envie de dire vraiment.
Oui, vous êtes à la fois un être très sensible, qui parle beaucoup de lui-même, et en même temps pudique. C'est un paradoxe,
c'est un peu,
pratiquement.
Oui, c'est un peu une dichotomie qui se fait. C'est vrai que sur scène, je suis plutôt... je vais vers les autres, et dans la vie, bon, quelquefois, je vais vers les autres, bien évidemment, je suis plutôt quelqu'un de convivial, mais j'ai peut-être un peu plus de mal à établir des rapports sociaux, voilà, dirons-nous.
Alors la scène, c'est pour bientôt, c'est peut-être pour vous ce qui est encore
plus important.
Le 4 avril à l'Européen, c'est déjà complet, je le dis, donc c'est une bonne nouvelle.
C'est formidable,
On dit qu'aujourd'hui, la vie musicale passe plus par le concert que par le disque. Ouais. On voit là une illustration, votre public sera là, et du coup, vous remettez ça le 20 novembre à la Cigale.
Le 20 novembre, on remet ça à la Cigale, voilà, avec plaisir.
Bon, bah, écoutez...
Et puis après, en tournée, je sais qu'il y a des villes qui arrivent, là, bon, voilà.
Alors, Jean-Guy Denis, on va revenir à votre nouvel album et on va faire un petit tour, remonter dans
le temps.
J'ai dit tout à l'heure quand même, pratiquement 40 ans que vous êtes là, que vous chantez.
Mais des fois, moi-même, ça me...
ça vous donne le vertige. Alors, remontons loin dans le passé.
Il y a des gens qui cherchent le bonheur quand ils l'ont tout près de leur cœur, tout près, tout fait, et qu'on trouve en train de pleurer quand ils n'ont pu le rencontrer qu'après des faits. Il leur faut des tas de chichis afin d'épater à tout prix Paris, surpris. Il leur faut 1000 sensations qui leur chavirent la raison. Opium, coco, pour eux plus rien n'est bon. Quand on veut être heureux, il n'y a que les spiritueux. L'alcool est un bienfait des dieux. Les toilettes, les bijoux, je m'en fous. La morphine qui rend fou, je m'en fous. Tous ces trucs-là me semblent bêtes quand j'ai bu mon anisette. Les diamants, les tours de cou, je m'en fous. J'ai fichu tout ça au clou, je m'en fous. Moi, je suis heureuse et je chante comme une fauvette quand j'ai bu mon anisette. Tiens, j'ai perdu mon mouchoir. Eh ben non ! Pourquoi m'en faire, s'il vous plaît, à tout propos, à tout sujet, pourquoi ? Tais-toi ! Cette vie-là dure trop peu pour que tout ne soit pas un jeu pour moi. Je te crois. Quand je vois tourner les maisons, qu'un flic me dit « Oust, au violon !» Je réponds « Oh, c'est bon !» Le commissaire est bon enfant pour celui qui n'est pas méchant. Il eut parfois pour moi des égarements. Mais moi, je perds pas le nord. S'il me faut coucher dehors, j'en connais qui n'en sont pas. Pas mort, s'il faut me priver de tout, je m'en fous. Et roupiller n'importe où, je m'en fous. Je rigole des bobards qu'on me jette quand j'ai bu mon anisette. Oh, moi, je vais boire n'importe où. Je m'en fous. Mais après, je marche sur les genoux. Je m'en fous. Et je me fous de la gueule de ceux qui se paient ma tête. Ah oui, parce que moi, j'ai un principe. Quand j'ai bu mon anisette.
Et les amoureux de l'opérette marseillaise auront reconnu la voix d'André Turcy en 1932 dans cette chanson à la gloire de l'anisette. Parce qu'il faut dire, Jean-Guy Donny, vous rappelez que vous êtes un petit gars de Toulon.
Un petit Toulonnais, oui. Moko.
Voilà, un Moko comme Pépé de Moko.
Pépé de Toulon.
Voilà, et vous avez grandi dans ce port. En plus, votre père était marin.
Mon père était marin, oui.
Finalement, très jeune, vous avez eu le goût de la chanson.
Oui, parce que par exemple, André Turcy, bon, j'étais très jeune, bien évidemment, voilà. Mais à ce moment-là, à l'Opéra de Toulon, il y a un hommage, parce qu'on lui rendait hommage, parce que c'était quand même une...
C'était une vieille dame à ce moment-là, donc.
Alors moi, j'ai mais eu l'impression qu'elle avait... Non, elle ne chantait plus.
Non.
Mais de temps en temps, il faisait des hommages. Alors moi, quand j'ai participé à cet hommage, moi j'avais 16 ans. Hein.
16 ans.
Et elle, j'avais l'impression qu'elle avait 100 ans. En fait, j'ai regardé sur Wikipédia, mais elle n'était pas si âgée que ça, elle avait que 70 ans.
Oui, c'est ça.
Et donc, je me suis retrouvé là, parce que je faisais partie d'une association de chanteurs, voilà. Et donc, on m'a poussé sur la scène de l'Opéra de Toulon. Et c'est la première fois que j'ai chanté sur une scène.
C'est quand même pas mal de commencer sur une scène d'opéra.
C'était bien, oui. Pour un hommage, pour André Turcy. Mais alors, des chansons comme Mon Anisette, Dans le Midi, les gens les connaissaient à ce moment-là, c'est les années 60-70.
Ouais.
C'était un répertoire que les gens, quand même, se partageaient familialement. Quoi.
Et puis, quand on est un jeune Toulonnais qui a envie de faire du spectacle, on ne pense pas peut-être tout de suite à Paris, on pense d'abord à Marseille.
Oui, on se dit, bon, peut-être Marseille, il y a plus d'ouverture. Première étape, mais enfin, l'étape primordiale, c'est Paris.
Voilà, et ensuite, donc, Paris, où vous êtes arrivé, c'est intéressant de le rappeler aussi, parce que vous êtes arrivé avec les ambitions, au fond, d'un jeune chanteur à la mode de l'époque.
Oui, variété, oui, tout à
vous
fait.
Faire
oui,
la variété,
en fait, je savais vraiment pas ce que je voulais chanter, enfin, je voulais chanter, en tout cas. Voilà, bon, j'ai eu la chance, c'est vrai, au bout de... Donc, quand je suis arrivé, j'ai pris tout de suite des cours de chant, je me suis dit, par là, je vais sûrement trouver quelque chose sans trop y croire, mais enfin, en même temps, j'en étais persuadé. Hein.
Voilà.
Et
mais votre objectif, c'était plutôt Guy Lux, Mariti et Gilbert Carpentier chanson poétique.
Oui, bien
la
sûr,
chanson,
oui, tout voilà, à fait, hein. Ça, je dois être honnête. Que, ça ne veut pas dire que je n'aimais pas ça, mais bon, je trouvais que c'était plus marrant de faire dans le populaire.
Dans voilà. Le populaire. Et alors, donc, vous avez débarqué un jour aux éditions de Michel Legrand, voilà. Et ça a été quelque chose d'essentiel dans votre vie. Parce que Michel Legrand, qui vient souvent dans cette émission, on a beaucoup parlé de tout ce qu'il a fait, mais j'ignorais que à ce moment-là où il était déjà très célèbre, il avait une activité d'éditeur.
C'est-à-dire, c'était sa mère qui s'occupait de l'édition et avec un collaborateur.
Et c'est ce monsieur d'ailleurs.
C'est ce monsieur qui m'a un jour je suis arrivé.
Il s'appelait, on rappelle son
nom. Marcel Rotel.
Marcel
et
Rotel,
donc voilà, je suis arrivé avec une bande de démonstration et une semaine après ils m'ont rappelé. Donc et parce que Madame Legrand, donc la mère de Michel, avait trouvé que j'avais un timbre de voix intéressant. Et elle avait dit à Marcel, elle avait dit ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il est tellement coincé que je suis sûr qu'il va se décoincer un jour ou l'autre.
Ah oui, c'est drôle. Vous étiez coincé. Ouais.
Bah, j'étais intimidé, vous imaginez, parce que bon.
D'ailleurs, votre première chanson à succès, qui est très loin de ce qui vous a rendu célèbre plus tard, c'est un peu aussi une chanson, pas sur la timidité, mais enfin, ça s'appelle Le Tétard.
Oui, Le Tétard, c'est un texte de Jacques Lanzmann.
De Jacques Lanzmann. Alors, c'est les éditions qui vous l'avaient
prouvé. C'est les éditions, oui, parce qu'il venait de faire un roman qui s'appelait Le Tétard, d'ailleurs.
Voilà.
Et donc, ils avaient décidé de faire une chanson qui accompagnait la sortie du livre.
Ah, du livre.
Voilà, et donc...
Vous l'aimez bien, cette chanson ?
Ah oui, je l'aime bien, je l'aime bien. Bon, il y a longtemps, je ne l'ai pas écouté.
Mais enfin, on est assez loin, effectivement, du Guy Donny qui allait se révéler un petit peu plus tard, dans un style complètement différent.
Oui, parce qu'après j'ai eu la chance de faire des tournées avec Serge Lama à ce moment-là.
Serge Lama, important aussi dans votre carrière.
Très important pour moi, parce que j'ai fait quand même trois mois de tournée, c'était formidable pour chanter trois chansons. Ouais. Et là, comme ça marchait quand même sur le public, je ne sais pas par quel miracle.
Vous avez une voix déjà, c'est ce qui est oui, la chose la plus rare chez les chanteurs.
Merci, mais... oui. Et donc je me suis posé la question, je me dis je ne peux pas quand même chanter des chansons de variété, j'avais pas honte, il ne faut pas exagérer, mais j'étais très mal dans ma peau. Et donc je me suis décidé d'arrêter, je me dis non, je vais pas y arriver, je sais pas, je n'écrirai pas, moi je pourrais pas écrire.
Il faut vivre d'abord avant d'écrire.
Ouais, bah oui. Et donc à ce moment-là, quelqu'un qui m'avait vu en tournée m'engage pour un cabaret qui s'appelait le Rive Droite à ce moment-là et me dit oh, c'est formidable, vous faites ce que vous voulez. Et c'est là que j'ai commencé à m'amuser sur scène, c'est-à-dire que j'ai commencé à oser voilà. Des choses. Et après, les choses sont enclenchées.
Et puis, je pense qu'il y a eu aussi un moment qui a été important pour vous trouver, si j'ose dire, c'est celui-là.
Je sais que vous êtes jolie, que vos beaux yeux pleins de douceur ont charmé tout mon cœur et que c'est pour l'envie. Je sais que vous êtes jolie, que vos beaux yeux pleins de rancœur ont charmé tout mon cœur et que c'est pour leur vie. Je sais que vous êtes jolie, que vos beaux yeux pleins de douceur ont charmé.
Ingrid Cavan en public au ouais. Pigalle voilà. À Paris et en 1978.
Et j'étais là pour l'enregistrement.
Parce que vous étiez là pour
c'était le dernier soir. C'était le dernier soir.
C'est vrai.
Je sais pas pourquoi, j'avais vu un article. Je me suis dit, il faut absolument que je vois cette chanteuse, enfin cette actrice.
Oui. Ouais. Alors qui amenait évidemment l'expressionnisme.
Voilà, complètement. Façon. Et puis ouais. Surtout, moi, comme j'étais dans l'attente et dans la recherche, d'un coup j'ai vu sur scène, parce que c'était la scène qui m'intéressait, quelqu'un. Qui était chanteuse, oui, mais qui était surtout comédienne. Donc, qui jouait la chanteuse, en fait, ouais, tout oui. En étant chanteuse. Et je me suis dit, bon, c'est quand même ce recul qu'elle a, cette dérision qu'il ouais, y avait. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Alors, à ma façon, bien évidemment. Et c'est à partir de ce soir-là que j'ai regardé sur l'album qui avait écrit les textes.
Qui avait écrit les textes ou adapté éventuellement les textes allemands, d'ailleurs.
De Fassbinder,
oui.
Voilà. Et donc, c'était Pierre-Philippe.
Voilà, notre cher Pierre-Philippe, qui est déjà venu plusieurs fois dans cette
j'imagine,
émission.
J'imagine, oui, c'est un puits de culture musicale.
De science, de culture, d'amour du spectacle, de la chanson, etc. Écrivain également, et qui était donc associé à ce moment-là à Ingrid Cavan. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la touche de Pierre-Philippe, mais le fait que déjà dans ce spectacle plutôt expressionniste, oui. À la Fassbinder, on trouve aussi cette chanson qui est de Christine. Il y a un mélange de musical français et de théâtre allemand, d'une certaine façon.
Ah oui.
Pierre-Philippe, alors c'est amusant parce que vous avez donc cherché à la rencontrer. Et alors moi, la première fois que j'ai entendu parler de lui, j'ai fait la même confusion. Parce qu'il y avait un autre pianiste, Pierre-Philippe, qui était le pianiste des frères Jacques. Voilà.
Donc on a mis un an à le trouver.
À trouver celui que vous cherchiez. Et finalement, donc vous avez vraiment désiré faire des chansons avec lui à la suite de ce spectacle.
Je voulais qu'il écrive. Bon, déjà quand je l'ai rencontré, bon, c'est quand même une montagne d'hommes. Enfin, j'étais au niveau culture. Moi, j'arrivais simplement avec mes quatre petits 45 tours à ce moment-là.
Une curiosité quand même, tu y as toujours eu chez vous, non, sans doute,
de
l'art, de la littérature,
bien évidemment,
etc.
Mais ça me paraissait un peu inabordable. Je me dis comment je peux aborder Et Fassbinder, c'était quand même Fassbinder derrière. Il y avait quand même tout un univers que je connaissais, bien évidemment, mais c'est de toucher du doigt, c'est formidable.
Alors, vous avez fait votre premier album avec Pierre-Philippe pour les paroles, et tout de suite un musicien qui a été associé longtemps à vous, qui s'appelait
Michel Civi.
Comment ça s'était noué?
Je travaillais déjà à ce moment-là avec Michel Civi sur d'autres chansons, donc pour ce qu'on essayait, on avait le temps. Et c'est quand les textes sont arrivés, j'ai dit à Michel, bon, maintenant on va travailler ça. Alors bon, il a eu très très peur parce que tout le monde a eu peur autour de moi parce que c'était des chansons quand même très porteuses d'un certain univers.
C'est pas toujours le format de la chanson de 2 minutes 30
voilà.
Qu'on faisait pour les phases
et
de
surtout
78
les thèmes parce qu'on avait beaucoup parlé avec Pierre de ce que j'avais envie de chanter. Bon, donc il y avait déjà l'image expressionniste bien évidemment, mais donc je pense que c'est moi qui l'ai amené sur le terrain un peu noir et interlope, si on peut dire ça. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Et donc, pour se débarrasser de moi, en fait, parce que je pense qu'il avait pas très envie. Enfin, il avait envie et pas envie. Il m'a envoyé les chansons. Première chanson qu'il m'envoie, c'est Chanson pour le cadavre exquis. Il me dit ça, bon, jamais ils vont accepter que ce garçon chante. Et moi, j'ai dit non, c'est absolument ce que je veux faire. Parce que j'avais déjà vu là. Par rapport à ce que j'avais envie de faire, j'avais senti déjà cette distanciation, et cette théâtralité, voilà.
Le monde interlope, faut dire, vous le fréquentiez un peu dans la vie aussi.
Oh, je le fréquentais un petit peu, bon, mais sans jamais y être vraiment. Bon, je suis plutôt moins contemplatif, donc je regardais. Bon, voilà.
Vous étiez, voilà, curieux de.
J'ai toujours été curieux de la vie et des gens.
Mais aussi de la vie concrète, bien des sûr, gens de la oui, rue, puis des la, voyous, des
Oui, puis
des
la vie un peu en marge,
etc.
Parce qu'on y rencontre des gens formidables.
Ben oui, bien sûr. Alors, voilà, une chanson, par exemple, de cette époque-là, 1980, Djemila.
Oui.
Vous pouvez en dire un mot avant qu'on la réécoute.
Oui, Djemila, c'est une jeune femme qui existait, qui était une égérie des années 80.
Des nuits parisiennes.
D'un journal qui s'appelait Façade, qui était le summum du chic. Et elle habitait à côté de chez Pierre, en fait.
Ah, oui.
Voilà, donc il la voyait passer. Après, moi je suis allé la regarder passer aussi.
La première fois que je l'ai vue, c'était l'heure des poubelles. Elle marchait au milieu de la rue, l'air hautain et rebelle. Bouclée dans un imper d'argent, sur des talons aiguilles. Elle semblait ne pas voir les gens et leur triste guenille. D'abord je n'ai pas vu ses yeux sous sa crinière en casse, car tout autour il y avait tant de bleu qu'on aurait dit un masque. C'était comme la reine de Saba allant sans nul cortège, une démone rentrant du sabbat, nimbée de sortilèges. J'en suis resté là, bouche bée, contemplant la coquette, et pour un peu laissant tomber mon lait et ma baguette. Dites, savez-vous son adresse? Moi, je ne veux rien que cela. Quelle fille son pas de déesse pour m'accorder un regard là? Je voudrais que mon tourment cesse, et qu'un matin, fille d'Allah, tu ramasses mon cœur en pierre, toi qu'on appelle Djemila. Voilà pourquoi chaque matin je descends dans ma ruelle, au coin de la rue Saint-Martin, espérant voir la belle. J'en vois de toutes les couleurs, des tas de jouvencelles, des Allemandes en chaleur, aux cheveux de ficelle, des flots de nanas sans après, des féministes en mots, qui si vous les lorgnez de près, vous lancent un regard faux. Des filles qui vont à Pompidou admirer des peintures, des Hollandaises et des Hindous marchant vers la culture. Des seins ou bien des fesses, des fois il y en a une bien, mais pas une n'a autant de chiens que mon enchanteresse. Comment revoir la traîtresse qui jamais plus ne gravita entre Beaubourg et ma détresse? Vous pouvez voir le résultat. Dites, elle a bien une adresse, ma Salomée, ma Dalila, celle qui mit mon cœur en pièce et qu'on appelle Djemila. Enfin hier je l'ai revue, l'étrange Sarrazine. Elle faisait à moitié nue la une d'un magazine. Il paraît qu'elle est du jet set, qu'elle fréquente le palace Saint-Germain-du-Prés, le Sept, qu'elle adore la calasse, mais qu'elle voudrait chanter du rock dans un groupe de lesbiennes, qu'elle se sent bien dans une époque si antédiluvienne. Ça m'a pas vraiment étonné ce que disait la lionne, aurais été trop surannée qu'elle fût bien mignonne. Et je me dis si elle me voit, bien sûr qu'elle passera outre, et qu'un pauvre type comme moi, elle n'en a rien à foutre. Si vous voyez la diablesse, ne lui parlez pas de tout ça, de l'endroit où le bas me blesse, ni de mes chaînes de forçats. Vous pouvez garder son adresse, moi je ne veux rien que cela. Recoller mon cœur en pièces et t'oublier, Jemila.
Jemila, qui nous écoute peut-être.
Bah, oui, je la salue, je la remercie d'être encore avec moi. Enfin,
voilà, elle a une sœur qui s'appelle Farida, voilà, qui nous impressionnait beaucoup quand on voulait entrer au palace ou à l'époque.
Mais c'est une chanson que je chante encore tout le temps.
Voilà, une belle chanson, oui, à laquelle vous êtes resté attaché, parce que j'imagine que il y a une partie de votre répertoire que vous reprenez au fil des tours de chant.
Oui, au fil des tours de chant, oui, c'est ça. Jemila, toujours.
Toujours.
Oui, parce que bon, je pense que les gens qui viennent me voir l'attendent. Et puis d'autres chansons, de temps en temps, il y en a tellement que j'ai un choix.
En tout cas, quand on écoute ça, bon, c'est 10-80, mais ce qui frappe d'abord, c'est... J'oserais dire votre voix, qui est si naturelle, si claire, si qui dit si bien les choses. Vous l'avez travaillé, vous avez dit tout à l'heure.
Mais... Oui, j'ai pris des cours de chant, mais
vous avez une voix.
Oui, ben je pense. Mais j'ai pris des cours de chant, bien évidemment. Mais après, les choses sont j'ai fait beaucoup de scènes, donc les choses se sont établies sur scène. Je pense sont établies vocalement, dans le partage avec le public. C'est-à-dire que on est obligé, enfin obligé. Il faut donner, il faut envoyer, il faut dire les choses, les articuler déjà. Donc tout ça fait du bien à la voix.
Voilà. Et puis alors il y a également dans ces premières années, au fond, le personnage que vous avez créé sur scène. Je crois d'ailleurs avec la complicité de Pierre-Philippe, là encore, notamment avec ce maquillage.
Hein. Oui, alors, le maquillage,
Blanc.
Avec les yeux un peu charbonneux. Bon, voilà. C'est vrai qu'il y avait... j'étais pas un précurseur.
Le jeu des lumières.
Ouais, voilà. Oui, parce que j'avais, en plus, je passais justement à l'Européen, qui était à cette époque-là le théâtre en rond, à 10h du soir. Donc tout ça était en plus, ce que je chantais était un univers quand même urbain et un peu glauque, il faut le dire. Mais en même temps, avec une sorte de, parce que j'étais beaucoup plus jeune, une sorte de naïveté qui était un peu paradoxale et c'était bien.
Alors, toujours dans cette, si j'ose dire, votre période Pierre-Philippe, il y a un autre disque important quand même pour nous les musiciens, c'est votre rencontre avec Piazzolla.
Ah oui, Piazzolla, oui, une rencontre extraordinaire.
Comment ça s'est produit?
Ça s'est produit que j'avais fait un grand échiquier, invité, et Astor Piazzolla était à ce moment-là à Paris, et on ne le savait pas bien évidemment, et Pierre venait d'écrire, je devais faire l'Olympia, donc Pierre venait d'écrire un texte qui s'appelle « Tout va bien », et me dit oh là là je sais pas qui le donnait et si on essayait Astor Piazzolla, alors les gens se disent Astor Piazzolla non, et en fait on l'a appelé
par
son éditeur et il dit oh ça tombe bien parce que je viens de voir ce chanteur il y a 3 jours avec plaisir on a eu la chanson 3 heures après.
Extraordinaire quand même.
Extraordinaire. Et c'est à partir de là qu'ils ont décidé qu'on a décidé de faire un spectacle complètement, on appelait ça un opéra chanté, un opéra solide seul, quoi.
Crime passionnel.
C'était Crime passionnel.
Voilà. Et c'était un disque aussi,
C'était un album aussi, oui.
Oui, c'était un album mis en scène comme une pièce.
C'était 12 ou 13 morceaux, 13 regards sur un amour, voilà, qui va jusqu'au crime, mais on sait pas si ça a été un crime ou un suicide, on ne sait pas.
Voilà, alors crime, suicide, monde noir, vous l'avez dit. Mais et alors, en même temps, vous aimez bien une forme de légèreté, Jean-Guy Denis, parce que quand on a préparé l'émission, je vous ai demandé vos choix musicaux, et alors, quelle ne fut pas ma grande surprise de vous voir choisir Get Happy par Judy Garland, comme si tout d'un coup, il y avait dans une face cachée de Jean-Guy Denis un amour de la fête, de la légèreté, de la joie.
Il y, un amour du musical.
Voilà, c'est ça.
Et dans chaque spectacle, enfin, ce que j'ai fait au fil de ces années, j'ai toujours mis une chose qui soit, qui tente vers le musical, parce que j'adore le musical déjà, et puis j'ai toujours été intéressé par ce qui s'était passé avant qu'on arrive, quoi. Donc j'ai beaucoup écouté des choses anciennes, lu des biographies, ça me touche toujours, parce que je me dis que quand on fait un métier, il faut quand même un peu savoir d'où on vient.
Y compris le mélange des genres qui est propre au musical.
Tout à fait, je crois qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de mauvais goût, quoi.
Here's Get Happy, a great rhythmic song done in great style by Miss Garland.
Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river. Wash your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy. Chase your cares away. Hallelujah, get happy before the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're gonna be going to the promised land. We're heading across the river. Wash your sins away in the tide. It's quiet and peaceful on the other side. Forget your troubles, get happy. Your cares fly away. Shout hallelujah, get happy. Get ready for your judgment day. Come on, get happy. Chase your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Sun is shining, come on, get happy. Lord is waiting to take your hand. Hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. Heading for the river. Throw your sins away in the tide. Hallelujah. It's all so peaceful on the other side. Shout hallelujah, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready. Get ready. Get ready for the judgment day.
Judy Garland en 1950, avec au début là aussi la voix de Bing Crosby. C'est un choix de mon invité Jean Guidoni. Ça fait plaisir parce que, vous savez, c'est pas toujours facile d'obtenir des invités des vrais choix musicaux. Et vous, on sent que vous vivez dans la musique, que vous écoutez les chanteurs d'autrefois, que vous êtes passionné, que vous les connaissez.
Oui, je trouve ça le moins de respect, en fait.
Et cette chanson-là, vous l'avez chantée en scène?
Oui, j'ai chanté parce que je savais pas, que j'avais vraiment très envie de rendre un hommage à Judy Garland et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc, un jour, j'étais avec des amis à la maison et je dis, attendez, vous allez voir comment je vais finir le spectacle. Et je suis allé me changer, j'ai mis donc des bas, comme elle était en bas à ce moment-là, dans cette chanson-là, avec des talons aiguilles, un smoking et une casque, un chapeau. Et voilà, quand j'ai eu envie de débarquer, j'ai dit non, mais tu vas pas faire ça, c'est pas possible. J'ai dit si. Je l'ai fait. et en vérité, les gens le public en tout cas, était plutôt emballé. J'ai jamais eu aucun colibé, rien du tout. Tout ça, c'est très bien passé. Et moi, j'ai pu amener cette espèce de légèreté quand même dans le spectacle pour dire, bon, tout ça, c'est du spectacle, quoi.
Alors, à partir de ces premiers disques, bon, on peut dire que là, la carrière scénique en particulier s'est enchaînée d'une façon assez importante. Vous avez parlé, d'ailleurs, c'est amusant de parler des lieux comme ça, du théâtre en rond qui est l'européen, en fait. Il y a une autre scène en rond où vous avez chanté, mais c'était pas facile, je crois. C'était le cirque d'hiver.
Hein. Cirque d'hiver, oui, j'ai fait en moi.
Comment ça se passe quand on a du public tout autour?
Puisque j'ai mes premières mes premières âmes réelles, enfin, sur un spectacle plus long, c'était dans un rond. Donc, à l'époque, les gens qui tenaient le théâtre en rond étaient des acteurs qui, donc, il m'avait expliqué comment on fait pour arriver à se tourner et s'adresser même aux gens qui étaient dans le dos. Donc, pendant cette période-là, j'ai eu un dos très expressif.
Hein. Un dos très expressif, voilà.
Mais c'est intéressant parce qu'on est cerné, en fait.
Et oui, bien sûr. Ouais. Oui. Et puis, vous avez aussi chanté à l'Olympia.
Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, ouais.
Et retrouver, alors ça c'est un petit peu plus tard, retrouver des musiciens importants. D'abord, Michel Legrand,
avec qui on a fait un album et le Casino de Paris.
Parce que Michel, finalement, vous l'aviez rencontré au début, quand vous étiez à l'édition.
Tout au début, mais j'avais pas eu de il avait produit l'album, le disque, bien sûr, à ce moment-là, mais il était aux États-Unis, donc il avait une vie quand même de star internationale, hein, il faut le dire. Ouais. Mais quelques années après, on s'est rencontrés et puis il m'a dit c'est bête parce que je suis un peu au départ de votre carrière. Il m'a dit si on faisait un album ensemble. Voilà.
C'est merveilleux comme ça, cette envie de faire des choses ensemble comme ça. Alors qu'il pouvait passer sa vie à faire des musiques de films.
Oui,
j'étais
très ému. En plus, il a accompagné, il a écrit pour des gens tellement extraordinaires. Ouais. Mais ça a été une expérience, c'est une très belle expérience pour moi, parce que bon, c'est un homme quand même d'une culture aussi très 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 grande, et c'est quelqu'un de très positif dans la création. Voilà, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de choses, et c'est vrai qu'il m'a aidé beaucoup.
Alors, j'étais frappé aussi en lisant des interviews de vous, etc., au fond, par une espèce d'oscillation assez régulière entre justement un certain goût de quelque chose de marginal, de rebelle, etc. Et puis quand même ce goût du musical et aussi de la chanson à succès et par moments l'envie de faire des choses un peu plus populaires et un peu plus formatées. Ouais, hein. Vous avez passé de temps régulièrement de l'un à l'autre dans ce balancier, non?
Un peu la valsésitation peut-être. avec une chanson qui a un peu fonctionné sur les radios qui s'appelle Tramway Terminus Nord, voilà, où là je faisais une incursion un peu dans la chanson dite populaire qui a été bon pour moi assez positive.
Voilà, et un album aussi Tigre de Porcelaine.
De porcelaine, voilà.
Qui était justement une démarche plus tournée vers
une chanson. En fait, il faut dire que je sortais aussi d'une chanson quand même pas très formatée entre guillemets avec Pierre Philippe, qui c'est de la littérature. Donc j'avais quand même envie de chanter des chansons, quoi, de me dire bon c'est une vraie chanson. Bon, je sais pas si c'était bien.
C'est un refrain qu'on retient, refrain, avec des paroles assez simples, etc.
Des choses plus simples. Et donc je m'y suis mis.
Un mot de Mort à Venise, 1987, qui est extrait de cet album.
C'est une chanson que je chante encore, que les gens qui viennent me voir aiment beaucoup. C'est une chanson que j'aime bien parce que j'avais réussi à ce moment-là à faire quelque chose d'assez concis, quoi, d'assez établir une atmosphère et comme un tableau, voilà, un tableau. C'était une description d'un tableau dans lequel j'étais, bien évidemment.
Le soleil sur la verrière fait des dessins sur ta peau. Derrière les ombres de travers bat le cœur d'un jour nouveau. Brisé comme feuille de thé, tu ris du plateau renversé. Fou ce cri qui me rend beau, goutte de larmes à ma peau. Est-il donc mort à Venise, dans l'orage d'un bordel, rimes et masques de mise, amoureusement cruel. Ô ton ventre que je frôle, nous aimer plus vrai que vrai, je laisse aller mon épaule, un jour à rester couché. Silence du matin, cadeau de l'eau fraîche dans un verre. Sur tes lèvres entrouvertes, les miettes d'un croissant chaud. Est-il donc mort à Venise, dans l'orage d'un bordel, rimes et masques de mise, amoureusement cruel. Les tigres de porcelaine.
cachent le restant de haine. Sous la peinture écaillée, notre lit est un champ libre, une aquarelle chagrine. Jetée au cœur d'une orange, toutes nos couleurs se mélangent. Est-il donc mort à Venise, dans l'orage d'un bordel? Rimes les masques de mise, amoureusement cruelles. Une pomme rouge tachée, sous des fruits ensoleillés, à ton front le battement d'un vol d'amour effréné, d'un vol d'amour suicidé, à l'heure du petit déjeuner.
Mort à Venise, ouais. Jean-Guy Denis en 1987 dans l'album Tic de Porcelaine, qui est d'ailleurs cité dans la chanson. 87, vous êtes encore un jeune chanteur et pourtant une célèbre journaliste, Colette Godard, à ce moment-là est en train d'écrire un livre sur vous. Oui, vous avez une biographie à l'âge de 30 et quelques années qui est parue chez Segers.
C'est vrai, en plus, Colette Godard était quelqu'un de qui vient du théâtre, donc
oui,
j'étais
ça, oui.
Très flatté en fait qu'elle écrive la biographie. Je trouvais que elle me faisait passer un peu dans une autre
oui.
dimension.
Ouais.
Donc ça m'avait. Et puis en plus, le livre est bien écrit. Et
voilà. Oui, très, très bien. Je l'ai retrouvé dans la fameuse collection Poésie et Chansons chez Segers. Et vous-même, d'ailleurs, à peu près à ce moment-là aussi, et même un peu avant, vous avez été tenté par l'expérience de l'écriture de livres.
Oui, ça a commencé comme ça, oui, voilà. Oui, non, c'est un jeune éditeur qui après avoir lu, il me dit, ce serait bien que vous écriviez votre biographie. Je dis, attendez, ma biographie à mon âge, qu'est-ce que je vais raconter? Il me dit, oui, mais il avait 23 ans, c'était le plus jeune éditeur de France. Et je lui dis, écoutez, moi, je veux bien essayer d'écrire, je vais essayer, mais je veux faire une biographie romancée. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Et si demain, vous voyez.
Voilà, que j'ai là
voilà.
Sous les yeux. Et donc, vous avez aimé
beaucoup,
la page blanche.
Oui, il y avait une collaboration avec ce garçon. Parce qu'en fait, il m'avait fait parvenir une série de questions. Donc, j'ai pu répondre comme ça, par l'écriture, à ces questions. Et ensuite, l'éditeur m'a demandé d'écrire, parce que malheureusement, il est mort. Et d'écrire la suite, donc j'ai écrit la suite avec quelques années après, voilà.
Vous allez continuer?
J'aimerais bien, c'est vrai que d'avoir fait l'album Légendes Urbaines, là, me donne envie, m'a redonné un peu le goût de l'écriture, donc j'ai envie d'essayer.
Ah voilà.
D'essayer
voilà.
Pour moi, en tout cas, on verra.
Ce serait un peu dans les tuyaux.
Voilà.
Voilà, on verra. Denis. On a parlé de music hall. J'ai des noms comme ça qui reviennent au fil de vos rencontres qu'on n'a pas évoquées, de gens qui vous ont marqué. Maurice Fanon.
Maurice Fasson, avec qui j'ai commencé un travail. Oui.
À vos tout débuts, là. Hein.
À mes débuts, oui, qui était un homme particulier, mais bon, tellement talentueux. Que,
voilà. Et puis, dans les influences, Marie Dubas.
Ah oui, ça, Marie Dubas. Alors, Marie Dubas, c'était. Je ne sais pas comment, j'en sais rien pourquoi je connaissais Marie Dubas, mais je ne sais pas, sûrement la curiosité. Et un jour, je lis une biographie par Robert Delaroche sur Marie Dubas.
Ouais.
Et Pierre, pour me faire plaisir.
Pierre-Philippe.
Pierre-Philippe, pardon. Pour me faire plaisir, pour le premier soir de l'Europe, du théâtre en rond, m'offre un portrait de Marie Dubas, que j'ai toujours à la maison d'ailleurs.
Ouais.
Et donc, je le mets dans la loge. Ouais. Et à ce moment-là, le premier qui rentre après pour
féliciter.
Me saluer, ouais. C'est son fils. Donc,
François Bénin.
Mais je crois qu'il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, mais pourquoi vous avez ma mère.
Ce que vous admiriez, c'est la diversité des registres, c'est ça?
Adèle, oui, ce que j'admirais, c'était l'espèce d'énergie et de fantaisie, et en même temps, quelque chose de dramatique derrière.
Ouais.
C'était un peu, avec la période, bien sûr, c'était les années 30, les années 20, les années 30, c'est autre chose.
Mais oui, bien sûr.
Enfin, on peut s'inspirer de tous ces gens-là.
Alors, je ne sais pas si vous vous en inspirez toujours, mais on va revenir peut-être un peu à votre nouvel album avec une autre chanson que vous avez choisie. Hein, c'est la troisième plage de l'album et elle s'intitule « Moi, je danse ».
Oui, c'est une chanson que j'aime
beaucoup.
C'est vrai
que vous bougez beaucoup sur scène.
Oui, je bouge un peu trop.
Vous êtes une sorte de danseur.
Des fois, oui, j'adore la danse, je fais de la danse. Oui, j'adore cette chanson.
Je danse, je me balance d'un pied à l'autre. Machinalement je danse, je compte mes pas. Je danse dans le silence sur les murs de ma chambre. Mon ombre se balance, je danse à contre-temps. Moi je danse. Moi je danse. Dans mon cerveau, sur ma peau, dans les salles d'attente, des gares, des hôpitaux, aux lueurs inquiétantes. Je danse, je me balance, d'une mesure à l'autre. Obstinément je danse, je compte mes pas. Moi je danse. Moi je danse. Je danse dans le silence de janvier à décembre. Mon ombre se balance, je danse à contre-temps. Dans ce monde de fous, sur le mal, sur le bien, les deux pieds dans la boue et sans aucun témoin. Et les mots à la bouche, aux portes des églises, quand vont prier les mouches inutiles, incomprises. Et quand la nuit tombe sur les vies coupables, sur les laissés pour compte, les espoirs négligeables, moi je danse. Moi je danse. Sur le fil dérisoire que tu tiens dans tes mains, sur le fil du rasoir, je vais à l'instinct. Dans les couloirs du temps, sous les yeux des horloges, sous la pluie dans le vent, sur le feu dans ma gorge, moi je danse. Moi je danse. Je me couvre des cendres de ces villes en ruine. Je tourne sans comprendre dans ces rues orphelines. Sur les masques, le rimmel, sous les postures, les injures, les matelas des bordels, sur les plaies des brûlures, moi je danse. Moi je danse. Devant les rideaux rouges, sur le marbre des tombes, quand autour rien ne bouge et que tombent les bombes, il y a du vent dehors, ou je ne sais quoi, un dernier corps à corps, et c'est mon cœur qui bat. Moi je danse, je danse, je danse, je danse, moi je danse, je danse. Je danse, je danse, moi je danse, moi je danse.
Moi je danse, une des plages du nouvel album de Jean-Guy Denis intitulé « Légendes urbaines ». Paroles de Jean-Guy Denis, musique de Didier Pascalis. Voilà un album qu'on va en quelque sorte découvrir aussi sur scène,
Oui.
À l'Européen, le théâtre de vos débuts, on peut dire, mais qui a changé.
Par rapport au début, oui.
Voilà, quand ça s'appelait Théâtre en rond, c'était vraiment un théâtre en rond.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est un théâtre un classique où il se passe beaucoup de choses.
Oui, il y a une très très belle programmation depuis des années, c'est très très bien. C'est un lieu intéressant.
Vous avez pensé, pour ce retour, cette rentrée parisienne, à justement une scénographie particulière, ou c'est plus un récital?
Plus un récital axé sur l'intime. J'ai l'impression, après je vais voir ce qui va se passer.
Vous c'est comme plateau. Ça, c'est aussi sur place qu'on
là,
voit.
Là, pour l'instant, c'est en fait une présentation du spectacle et des chansons, mais bon, le plateau, c'est pas un très très grand plateau, donc déjà avec les musiciens, ça prend de la place. Donc bon, la théâtralité, si théâtralité il doit y avoir, je le ferai moi.
Bien voilà. Sûr.
Avec des éclairages, bien évidemment.
D'autres rencontres, Jean-Guy Denis, que je voudrais évoquer pour parler de Jean-Guy Denis et la musique, puisqu'on est sur France Musique. Il y a eu quand même celle de Gérard Daguerre.
Oui, Gérard, qui m'accompagne depuis longtemps.
Le musicien de Barbara et de Jérôme Savary, mais avec qui vous avez beaucoup travaillé. Hein.
Oui, beaucoup travaillé avec lui, m'accompagné longtemps. Voilà,
sont des années heureuses, les années de la guerre.
Oui, oui. Bon, après, c'est des années où on se cherche toujours un peu, donc où on est dans le doute, bien évidemment.
On se cherche tout le temps.
Ben oui, parce que surtout quand les choses prennent le temps, comme ça, bon, ça fait tellement d'années maintenant, qu'il y a des tas de périodes très différentes, voilà.
Il y a eu aussi Roland Romanelli.
Romanelli, avec qui j'ai travaillé au début, Yannick Top aussi, qui est un... Et puis une rencontre aussi, qui a été avec un... Bon, qui est pas si lointaine que ça, avec un... parce que j'aime beaucoup la musique contemporaine, donc j'ai travaillé un petit peu avec Thierry Esquèche, voilà.
Avec Thierry Esquèche.
Oui, hein. Il m'a écrit deux chansons.
Vraies chansons ?
Oui, sur des textes de Jacques Prévert, voilà.
Ah voilà, parce que j'allais dire, les écrivains ont quelquefois du mal à écrire des chansons, mais est-ce que les compositeurs arrivent à écrire des musiques de chansons ?
Parce qu'il adore la musique, mais il adore la chanson, pardon.
C'est vrai qu'il a une culture populaire, il a même joué l'accordéon.
Un homme formidable. Ouais. Donc, il m'a amené vers une musique que j'aime, qui est un peu dissonante, qui est la musique contemporaine. Voilà, je suis ravi d'avoir rencontré cet homme-là. Et puis après, j'ai travaillé aussi avec un autre garçon qui s'appelle Fabrice Ravel-Chapuis.
Les chansons que vous avez faites avec Esquèche, elles sont pas encore sorties en
Si, si,
en
c'était
disque.
Un spectacle qui, sur chaque, c'était deux textes de Jacques Prévert, parce qu'on avait obtenu l'autorisation de réécrire de la musique sur les textes de Jacques Prévert.
Donc dans le disque Prévert.
Voilà.
Voilà. Bonnes découvertes en perspective. On va vous retrouver encore dans une autre plage de votre nouveau disque, La Piste des éléphants. Ouais. Un mot de présentation, même si les chansons se présentent elles-mêmes.
C'est une des chansons que j'aime dans l'album.
Vous avez le droit d'avoir une chanson préférée, quand c'est les vôtres.
Je les aime toutes, mais bon, des fois, c'est... j'aime beaucoup parce que elle aborde un thème que j'avais du mal à aborder, c'est-à-dire l'immigration, le passage des gens. Donc j'ai comparé un peu, entre les éléphants qui sont en troupeau et les gens qui marchent, mais enfin c'est nous qui marchons en même temps aussi, donc voilà. Et les chasseurs sont là.
Vous êtes un chanteur engagé, Jean-Guy Denis.
Alors engagé ou
j'ai entendu que vous étiez un chanteur de gauche.
Oui, bien sûr. Mais l'engagement, j'ai toujours eu peur de la chanson engagée en fait. Ouais. Je préfère que l'engagement passe par je dirais pas par la poésie, mais par des images différentes, parce que c'est toujours délicat de faire une chanson où on fait que de la chanson engagée, avec le poing levé, c'est très respectable, bien évidemment. Mais en ce qui me concerne, je préfère que l'engagement passe par l'humain, quoi, par le ressenti.
Le concret.
Le concret, et puis le ressenti, voilà.
La peau brûlée par le soleil, nous suivons le bruit des nuages. Nous avons perdu le sommeil, il est bien trop long ce voyage. Cette ville ressemble à la savane, le vent, le sable, les caravanes, aucune source. Aucun point d'eau où iront boire les troupeaux, comme le font aussi les éléphants. Dans cette course contre le temps, où vont nos âmes singulières, nos belles âmes d'éléphants, fuyant les terres étrangères. C'est le cortège des pas grand-chose, des va-nu-pieds, des moins que rien, des méprisés, des bouches closes, éléphants roses bien trop païens, et les chasseurs tuent les éléphants. Sur la piste des éléphants, le jour se lève, c'est la chasse. La chasse à l'homme va commencer. Il faut faire taire l'animal, s'il parle trop, il faut tirer. Sans hésiter, tirer dans la tête ou dans le dos.
il tire, et il tire, infatigable, imperturbable. Entends au loin, plus loin, là-bas, la rumeur des hommes qui marchent, le dos courbé, ils marchent au pas, ils n'ont plus rien que leur défense, c'est de l'ivoire de pacotille, on leur arrachera bientôt, ils n'auront plus que leurs os. Comment le fait aux éléphants, et les chasseurs tuent les éléphants. Écoutons le bruit des nuages comme le font les éléphants. Renversons donc les murailles, les idées reçues, les tourments. Évitons les sables mouvants et les promesses dans le vent. Soyons heureux et triomphants comme le sont les éléphants. Mais les chasseurs tuent les éléphants. Sur la piste des éléphants, le jour se lève, c'est la chasse. La chasse à l'homme va commencer. Il faut faire taire l'animal, s'il parle trop, il faut tirer. Sans hésiter, tirer dans la tête ou dans le dos.
La piste des éléphants, une belle chanson, sombre là encore,
oui, mais
de Jean-Guy Denis dans ce nouvel album Légendes urbaines. Que vous allez présenter donc à l'Européen, puis à la Cigale, c'est le 20 avril, hein, je crois, la Cigale.
Non, la Cigale, c'est le 20 novembre. J'ai un peu le temps encore de travailler.
Ah oui, c'est plus tard, ah,
oui,
beaucoup
plus tard.
Oh là là.
Oui. Une question de date, enfin.
Voilà. Et donc, que vous allez également tourner tout prochainement.
Oui.
J'ai noté encore votre amour des auteurs, des écrivains, vous a poussé à travailler, alors non seulement avec des compositeurs, mais aussi avec des romanciers,
oui,
comme Marie Nimier, par
Marie
exemple.
Nimier,
Jean
Rouault. Jean
Rouault.
Et puis un autre auteur avec qui j'ai beaucoup aimé travailler, qui est un auteur de théâtre, qui s'appelle Enzo Corman.
Voilà.
Voilà. Parce que il fallait, après avoir travaillé avec Pierre, bon, j'avais pris le goût de la chanson un peu littéraire, je dois
voilà,
le dire.
C'est ça.
Donc voilà, j'ai beaucoup de plaisir avec travailler avec Jean Rouault, avec Marie aussi.
Et faire appel à des écrivains
voilà,
aussi pour les pousser à écrire des chansons,
ouais.
C'est peut-être bon pour eux d'ailleurs.
Mais oui, puis en plus ils ont envie parce qu'ils aiment bien la chanson, tout ça. C'est parce que la chanson c'est un exercice particulier.
Voilà. Et puis vous continuez donc d'écouter pas mal de musique. Alors vous m'avez proposé un certain nombre de choix pour cette émission et je dois dire, vous m'avez enchanté. Alors dans un genre complètement différent.
Je vous ai étonné alors.
Par une rareté. Vous m'avez étonné,
bon,
absolument. Jean-Guy Denis, vous m'avez étonné avec. Offenbach chanté par Mélina Mercouri.
Ouais.
Comment vous étiez tombé dessus?
Il y a longtemps, très très longtemps. Non, en plus j'adore la musique d'Offenbach, donc je me suis dit, je vais pas choisir un Offenbach. Et je connaissais une des versions par Mélina Mercouri.
Voilà, la veuve du colonel,
voilà.
Revue et corrigée, avec beaucoup de talent d'ailleurs.
Je suis veuve d'un colonel qui mourut à la guerre. J'ai chez moi regret éternel, sans casque sous un verre. Maintenant je vis à l'hôtel, mais de telle manière que de là-haut, du haut du ciel, sa demeure dernière.
Il est content, mon colonel. Il est content, mon colonel. Ou du moins, ou du moins, ou du moins, je l'espère. Es-tu content, mon colonel? Es-tu content, mon colonel?
Es-tu content, mon colonel? Es-tu content, mon colonel?
Pour remplacer mon colonel, heureux. M'ont parlé d'amour d'un temps tel qu'ils m'ont mis en colère. J'ai par un refus si formel repoussé leur prière. Que de là-haut, du haut du ciel, sa demeure déraignait. Mon colonel, il est content, mon colonel. Ou dis-moi, je l'espère. Es-tu content, mon colonel? Es-tu content, mon colonel?
Es-tu content, mon colonel? Es-tu content, mon colonel?
Bla 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 bla.
Le major, partout où l'on dîne, le dîne passe en file, pas de le major, pas de le major. Je suis le major, je suis le major. Partout où l'on joue, partout où l'on floue, pas de le major
bien. Mélina Mercouri en veuve d'un colonel,
ouais.
Dans les années 70, qui évidemment en Grèce prenait un sens un
très
peu particulier,
oui.
Vous le soulignez, Jean-Guy Denis, version formidable que je recommande à tout le monde et que je vous remercie de me faire découvrir ce matin. Donc là maintenant, bah voilà, vous allez préparer l'Européen.
Oui, je pars en répétition. Là,
c'est vrai, aujourd'hui même.
Oui, d'aujourd'hui.
Demain. Avec votre producteur qui est également
le compositeur.
Le compositeur dont on a parlé ce matin. Et puis voilà, ensuite il y aura donc une tournée sans
oui,
doute
qui est prévue
à la rentrée.
Oui, à partir de la rentrée et puis le... Et puis la cigale le 20 novembre, voilà. Où je suis content d'aller parce que.
Et puis entre deux, vous allez écrire alors une vraie biographie ou toujours du roman,
c'est biographie,
une vraie autobiographie cette fois.
Ou une vraie ou un roman, alors. Je ne sais pas, je vais voir ce qui vient.
Bon, on va se quitter, Jean-Guy Denis avec Michel Legrand, ça vous convient,
oui,
est en ce moment très présent, lui aussi
oui,
fait son retour comme compositeur à part entière avec des concertos. Et vous avez fait donc cet album Vertigo ensemble, où vous chantez en duo.
On chante, oui, on a chanté en duo, même sur scène, on a chanté en duo.
Voilà. On salue Michel, je vous remercie beaucoup.
Avec plaisir, je lui dois tellement de choses quand même.
Depuis le début,
et oui.
Comme on l'a dit tout à l'heure.
Et je suis fidèle à mes émotions.
À vos émotions et à vos amis qu'on a évoqués, en tout cas pour une grande partie d'entre eux aujourd'hui. Merci d'avoir
on
été.
On en a oublié un peu, mais ils me pardonneront en tout cas.
Vous reviendrez de toute façon.
Avec plaisir.
Merci Jean-Guy Denis.
C'est moi,
au
je vous remercie.
C'est crevant. L'amour à contre-courant, c'est troublant. L'amour au milieu des champs, c'est charmant, mais c'est franchement barbant. L'amour au coin d'une rue, à l'affût,
ouais.
Mais l'amour d'une inconnue, c'est tout vu. L'amour dans un escalier, c'est risqué. Un bel amour embaumé, c'est péché. L'amour dans le déshonneur, quel bonheur.
Faire l'amour pour la patrie, quelle connerie.
L'amour solitaire, c'est un peu austère. C'est comme une prière. À quelle piété l'amour sous le fouet, c'est un souhait.
Faire l'amour à plusieurs, quelle vigueur.
Faire l'amour pour de l'argent, excitant.
L'amour avec un grand A, c'est bêta.
Mmh.
sur un clavecin.
C'est divin.
Faire l'amour en public, c'est cynique. Ah
bon? Franchement philosophique.
Ah, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Faire l'amour sous un bureau,
quel boulot.
Mais l'amour sadomaso,
quel credo.
L'amour avec Minitel,
c'est manuel.
Faire l'amour à la Chiffère, c'est très très cher.
L'amour à la Corsica,
en état.
Faire l'amour anthropophage,
quel carnage.
L'amour solitaire, c'est un peu austère. C'est comme une prière. À quel pied t'es l'amour attaché?
L'amour à contre-courant, c'était Michel Legrand, en duo avec Jean Guidoni, qui était donc aujourd'hui mon invité. Alors, il sera, vous le savez, à l'Européen dans quelques jours. Malheureusement, c'est complet. Mais ensuite, la tournée, La Cigale, et puis surtout, le disque, bien sûr, que vous pouvez vous procurer, qui est paru dans le label Tassette. Ça s'appelle Jean Guidoni, Légendes urbaines.
Wird's grün und die Krachten, die träumen,
laden dich ein, hier glücklich zu sein unter den blühenden Bäumen.
Frühling in Amsterdam muss man einmal erleben. Frühling in Amsterdam, schöneres kann es nicht geben.
Fröhlin in Amsterdam, le printemps à Amsterdam, vous l'avez compris, ben oui, c'est le printemps, même si aujourd'hui c'était un peu moins le printemps que ça ne l'était toute la semaine. C'est en tout cas l'occasion d'écouter ce duo de Robert Stoltz, maître de l'opérette viennoise. Le disque dit que c'est chanté par Ursula Reichert et Nicolas Gueda. Je ne suis pas très sûr qu'il s'agisse vraiment de Nicolas Gueda, mais en tout cas, c'est une bien jolie chanson. Et je vous rappelle que cette émission, toutes ces émissions, vous les retrouvez en podcast sur le site de France Musique, l'occasion de retrouver aussi Jean Guidoni. Mais pour nous quitter, nous allons écouter maintenant quelques archives, à commencer par une qui a ressorti pour moi, Romain Couturier, avec notre discothèque centrale de Radio France, où vous savez, nous avons beaucoup de trésors. Et celle-ci, je ne la connaissais pas, je dois dire, je connaissais bien Florence Foster Jenkins, qui a été à l'honneur avec deux films au cours des mois passés, vous savez, cette chanteuse qui ne savait pas chanter et qui a d'ailleurs fait l'objet de très très beaux, belles adaptations cinématographiques. Mais il y en a une autre plus proche de nous, qui est morte en 1997 et qui a été régulièrement classée comme la plus mauvaise chanteuse du monde. Elle s'appelait Mrs. Miller, elle est américaine, elle est née en 1907 et elle a fait notamment deux albums marquants en 1966 et 1967. C'est effectivement assez spécial.
Gentle is the rain that falls softly on the meadow. Bird high up in the trees, selling flowers with the melody. Oh, see there beyond the hill, the bright colors of the rainbow. Some magic from above made this day for us just for love. Now I belong to you. Love me tenderly, and I'll give to you every part of me. Oh, don't ever make me cry through long, lonely nights without love. Be always true to me, keep this day in your heart eternally. Just as wonderful. You hold me in your arms and say once again you love me. And if your love is true, everything will be just as wonderful.
A Lover's Concerto par Elva Ruby Miller, dite Mrs. Miller, morte en 1997 et classée comme la plus mauvaise chanteuse de tous les temps. En tout cas, merci à la discothèque de Radio France de nous avoir ressorti ce petit trésor de 1966. Alors, la deuxième archive que j'ai trouvée pour vous, elle est moins amusante, mais elle n'est pas moins étonnante. Certains d'entre vous en ont peut-être d'ailleurs déjà entendu parler sur France Musique. Vous savez en effet qu'on a retrouvé récemment dans les placards des Folies Bergères une bande magnétique datant de cette époque juste après la guerre où le jeune Pierre Boulez jouait des ondes Martenot aux Folies Bergères. Et oui, il fallait bien gagner sa vie. Et effectivement, Boulez, on sait qu'il a été musicien de la compagnie Renaud Barreau, mais il a d'abord été ondiste dans ses spectacles pour faire quelques cachets. Mais ce qu'on ne savait pas, et il faut dire que Pierre Boulez n'en a pas beaucoup parlé, c'est qu'il a également composé à l'époque quelques musiques pour des revues des Folies Bergères, comme cette bande qu'on a donc retrouvée, qui s'intitule Anniversaire. Je ne sais pas si c'était pour accompagner un numéro de striptease ou simplement une fin de spectacle. En tout cas, voilà, c'est assez étonnant de penser que c'est composé par la même main qui, à la même époque, écrivait la première sonate déjà très post-sérielle qui allait lancer la vogue de la musique dite contemporaine.
Thank you.
anniversaire, cette étonnante composition du tout jeune Pierre Boulez, juste après la guerre, à l'époque où il écrivait des musiques pour les Folies Bergères. Et puis on va terminer cette séquence d'archives avec Germaine Taillefer. Je vous ai déjà fait entendre au cours des dernières semaines Arthur Honegger qui nous parlait des aventures du roi Pozzol, Francis Poulenc qui nous parlait de Suzy Delair et de Louis Gann. Eh bien, Germaine Taillefer avait elle aussi le goût de l'opérette, de la comédie musicale, de l'opéra bouffe. Elle en a d'ailleurs écrit pour la radio une série de 5 petits opéras joyeux du style galant au style méchant. Alors d'un côté, nous avons ressorti un petit bout de cette archive, extrait dans ces petits opéras bouffe pastiche pour la radio. Et puis juste avant, un bout d'interview de Germaine Taillefer qui converse avec l'écrivain Paul Gut et qui nous rappelle quelques-uns de ses souvenirs de jeunesse.
Madame Germaine Taillefer, savez-vous que vous me faites l'effet d'un phénomène ? En France, il me semble que nous avons très peu de dames compositeurs ou compositrices. Comment faut-il dire ? Comment dites-vous ?
Moi, je dis compositeur.
Ah, ça fait plus mal.
C'est pas seulement que ça fasse plus mal, parce que j'ai horreur du côté masculin. Je trouve que les femmes peuvent écrire une musique qui leur soit absolument personnelle, à leur personnalité. Je veux pas dire si une fille a une inspiration virile, c'est parfait qu'elle fasse une musique d'homme, une musique virile, une musique masculine. Mais si une femme a une sensibilité différente, comme en peinture, il y a eu Berthe Morisot, Marie-Laure Ancin, qui ont apporté tout de même une part dans la peinture de sensibilité qui n'est ni féminine ni masculine, mais qui existe en soi, sans ce ton péjoratif, masculin ou pas masculin.
Bien entendu. Mais alors, masculin ou pas masculin, ou féminin en tout cas, comment est née votre vocation de compositeur ?
Parce que j'étais toute petite, très attirée par la musique, on ne sait pas pourquoi. Je jouais sur des petits pianos, je cherchais des airs, je les transposais. J'étonnais ma famille, mais j'ai eu beaucoup de difficultés parce que mon père ne voulait pas que je sois musicienne.
Que faisait votre père ?
Mon père était dans le commerce des vins.
Ah, vous pouviez jouer sur les bouteilles ?
Je jouais sur les bouteilles, c'est ça. Famille de bourgeois, sans histoire, sans rien. Mais enfin, il est évident que ma vocation de musicienne tombait très mal.
Pouvez-vous nous raconter un événement de votre vie musicale qui a eu une énorme importance, c'est votre affiliation, le mot est peut-être bien gros et bien mystérieux, enfin votre, oui, disons tout de même affiliation, au groupe des 6, ce fameux groupe de musiciens.
Ça a été la chance de ma vie. C'est-à-dire, aussitôt après la guerre, j'ai rencontré Eric Satie. Bien sûr, avant la guerre de 1914, j'étais au conservatoire avec Darius Milhaud, Georges Horry, Honegger. Et nous sommes tous retrouvés après la guerre, et c'est une rencontre tout à fait par hasard avec Eric Satie qui nous a réunis.
Comment était-il ce fameux Eric Satie ?
Eric Satie, physiquement, tout le monde a vu ses portraits, c'était un personnage truculent, d'une drôlerie invraisemblable, d'un esprit fou et d'une fantaisie, évidemment, que je ne connais personne qui l'a égalé, et d'une sorte de toupet aussi.
Il avait un drôle d'aspect physique.
Il avait l'aspect d'un petit bourgeois avec une barbe à la Méphistophélès. Il portait des chapeaux longs, des cols empesés, des souliers pointus, un parapluie qui ne le quittait jamais. Par n'importe quel temps et beau soleil, il avait son parapluie. Il habitait la banlieue, revenait à pied à n'importe quelle heure, de la nuit ou du petit jour. Et il ne voulait jamais qu'on le raccompagne. Hein. Enfin, personne n'avait été chez lui. Il habitait à Arcachon. On a découvert son espèce de pièce, son taudis.
Sa tanière.
Malheureusement, sa tanière, quand il est mort. Maintenant, il nous disait des choses. Il disait, mes enfants, on vous dit qu'il faut arriver. Je suis bien d'accord, mais il faut arriver où ? Comment ? À quelle heure ?
Un joli hussard, voyez-vous, ne redoute point les hasards. À la guerre, il est un peu fou, en amour, il est foudroyant. Mais sur le terrain, sacre bleu, jamais je ne manquais d'entrain. Je fais honneur à mes aïeux, expliquez-moi vos béquements.
Monsieur le duc, les voilà tout juste, les petits pois.
Ah, c'est elle, c'est bien elle.
Monsieur le duc, permettez-moi de vous présenter Monsieur Petit Pois et son neveu.
Aurais-je ce Petit Pois ?
Et voici, mademoiselle, ma fille unique, mon Héloïse.
Ma fiancée ?
Je m'en doutais.
Mon fils, délestant de la bombardière.
Nous avons déjà vu le lieutenant à Romorantin.
Parfaitement.
Ouais.
Monsieur le duc, j'ose dire que vous avez devant vous, en ma modeste personne, l'inventaire de l'universel, de la prodigieuse moustachette petit pois, adoptée par sa majesté l'empereur Napoléon et par toute sa cour, sans parler des cours de Russie, d'Angleterre, d'Italie, de Bavière, de Bulgarie et de tutti les quanti, enfin, lesquels ne conçoivent plus le port de la moustache sans l'appui de mon appareil éducatif, hygiénique et séducteur, entièrement fait en filoselle et en laiton élastique.
Vraiment, monsieur ?
Vraiment, monsieur.
Des femmes produites de l'industrie qu'un siècle éclairé se plaît à vanter, le plus merveilleux, le moins coûteux, le plus merveilleux, le moins coûteux. La moustache, c'est la moustache. Petit pois, c'est la moustache qui attache le sexe enchanteur à l'époux vainqueur. Faites-vous aimer, messieurs, portez, faites-vous aimer, messieurs, portez. La moustache, la, 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 la moustache. Petit pois.
Monsieur Petit Pois achète un château, c'est un opéra bouffe radiophonique de Germaine Taillefer, ici dans l'enregistrement original de 1955. Auparavant, c'était Germaine Taillefer avec Paul Guth. Et puis, une bonne nouvelle pour les amoureux de l'opérette. Et pour terminer, Gosse de riche de Maurice Yvain, ce sera au théâtre de Saint-Dizier le 9 avril et à Paris les 12 et 19 avril au théâtre Trévise, une production à ne pas rater par la compagnie des frivolités parisiennes. Il y est question des nouveaux riches et de la question du chic.
Vous êtes étincelant.
Je suis chic.
Simplement.
Voilà le mot. Je suis chic.
D'un air dégagé, j'ai correct et cossu, su me faire une place à part parmi le monde des grands bars. Je m'habille à London, je donne pour ça 200 louis, oui, et ces gants épais, spec, 100 francs retapés, sensible au camp, dira-t-on. J'imite ceux qui donnent le ton pour faire comme le prince de Galles. Chaque matin, je tombe de cheval. Quand on est chic, 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 comme je suis, il faut savoir se poser à Paris. Y a un baron qui écrit, moi je veux faire des pièces comme lui. Quand on est chic, chic, chic comme je suis, on a toujours de l'esprit du moment qu'on y met le prix. Et qu'on est chic, chic, chic comme je suis. Tous les jours au bois, je bois trois martinis secs. C'est qu'il est bien porté, t'es de savoir se cuiter. Je possède trois autos totalement peintes en vert. Vers minuit au dancing, zing, je m'amène en smoking. Chez moi, Faubourg Saint-Germain, je donne des balles gallo-romains. J'invite tous les gens connus et je les reçois complètement nus. Quand on est chic.
Gosse de riche de Maurice Yvain, ne pas rater le 9 avril à Saint-Dizier, les 12 et 19 avril à Paris au théâtre Trévise. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je le précise, j'aurai la grande joie de recevoir Jane Birkin qui viendra nous parler de sa vie en chanson à l'occasion de la sortie de Gainsbourg Symphonique et du concert qu'elle donne avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Ça, c'est samedi prochain. D'ici là, je vous souhaite à tous un bon week-end sur France Musique.